le magazine des Nations Unies.
Il faut rétablir la confiance entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Propos de Martin Kobler mercredi dernier, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a reconnu l'existence des divergences entre son institution et les autorités congolaises, mais des divergences que les deux parties peuvent surmonter dans un dialogue permanent. Les détails dans cette édition. Encore un Congolais à la CPI cette fois-ci, non comme accusé mais plutôt comme juge. Le pourquoi et le comment du choix du magistrat congolais avec le porte-parole de la Cour pénale internationale en RDC. Et puis comment stabiliser les zones sortant des conflits dans l'est de la RDC? Un atelier tenu du 3 au 5 mars dernier à Kinshasa a permis à l'unité de stabilisation de la MONUSCO et le programme de reconstruction et la stabilisation SAREC en sigle de se pencher sur la question. Résultat, une nouvelle stratégie nationale est à mettre en œuvre pour justement booster le développement des zones sortant des conflits. Le chef de l'unité de la stabilisation de la MONUSCO est notre invité. Vous suivrez l'interview qu'il nous a accordée à ce sujet. Enfin, mois de mars, mois de la femme, le magazine vous fait découvrir une femme UN Pole de la MONUSCO dans sa rubrique Portrait.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour et bon dimanche chez vous. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, est en route pour New York, où le Conseil de sécurité devra statuer avant avril 2015 sur le renouvellement du mandat de la mission onusienne en RDC. Mercredi dernier, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, Martin Kobler a révélé les sujets qui vont figurer à l'ordre du jour de la réunion de l'organe exécutif de l'ONU et reconnu que les relations entre la MONUSCO et les autorités congolaises sont difficiles depuis quelque temps. Honoré Misenga Kalala nous fait le point.
La réduction des effectifs militaires des forces onusiennes, l'avenir de la brigade d'intervention, la réforme du secteur de la sécurité ainsi que le rôle de la MONUSCO dans le processus électoral 2015-2016 seront parmi les sujets majeurs à débattre autour du renouvellement du mandat de la MONUSCO, Martin Kobler.
Je vais me déplacer à New York maintenant pour la réunion du Conseil de sécurité. Une fois par an, on a le renouvellement de mandat, c'est pourquoi cette réunion du Conseil de sécurité sera très très importante. Deux sujets qui sont d'assez importants, c'est la réduction de la force de la MONUSCO et le futur de la brigade d'intervention, mais aussi la question de DDR, question de réforme du secteur sécurité et le soutien de la MONUSCO par rapport aux élections. Ça sera discuté au sein du Conseil de sécurité, la décision sur le renouvellement de mandat sera prise un peu plus tard, avant le 31 mars. C'est maintenant un échange de vues entre le gouvernement de la RDC, la MONUSCO et le Conseil de sécurité pour trouver un nouvel mandat.
Et dans cet échange de vues, le chef de la MONUSCO reconnaît que les relations entre son institution et le gouvernement congolais, et même avec le président de la République, ne sont pas bonnes. Et cela essentiellement à cause de deux divergences.
Nous avons deux points de divergence ici, c'est la réduction de la MONUSCO. Combien de soldats vont être réduits au cours de cette année, de l'année prochaine, ça doit être discuté à New York, mais aussi les divergences sur la méthode en ce qui concerne les droits de l'homme. Nous partageons tous le même objectif, de protéger les droits de l'homme. Naturellement, la question du soutien des FRDC contre les FTLR, c'est une question très importante. On a toujours dit on va combattre les FTLR, mais maintenant on a bloqué parce qu'on a des problèmes avec la question des droits de l'homme, avec les généraux qui ont été nommés au mois de février ici pour mener les opérations.
Donc, pour Martin Kobler, il faut rétablir la confiance par un dialogue permanent et sincère parce que, insiste-t-il, la MONUSCO et le gouvernement poursuivre les mêmes objectifs, notamment dans le domaine des droits de l'homme, mais un dialogue fondé sur la vérité et la transparence.
Se dire la vérité, c'est pas tuer la fraternité. C'est un proverbe ici au Congo. Je voudrais bien continuer dans un esprit de vérité, de fraternité, de partenariat et de confiance avec le gouvernement.
Cependant, le représentant du secrétaire général en RDC s'est dit confiant et croit que la crise de confiance avec les autorités congolaises sera surmontée. Et il souligne qu'il est fier de servir dans une institution dont les valeurs fondamentales sont notamment la protection des droits de l'homme, la démocratie, le respect de la constitutionnalité et la protection des vulnérables.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Antoine Kessiambe Mindoua a été nommé juge à la Cour pénale internationale. Il a prêté serment avec 5 autres nouveaux magistrats d'autres pays. C'était le mardi 10 mars dernier à La Haye. Alors comment devient-on juge de cette haute instance judiciaire internationale? Paul Madidi, porte-parole du bureau de la CPI-RDC, répond à cette question et à bien d'autres dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Paul Madidi, bonjour.
Bonjour.
Un magistrat congolais, en la personne de M. Antoine Kessiambe, a été élu juge à la Cour pénale internationale. Il a même déjà prêté serment. Et c'est le premier Congolais à être appelé à siéger dans cette institution judiciaire.
Oui, effectivement, c'est le tout premier Congolais nommé à ce poste-là. C'est le tout premier qu'on a comme juge à la Cour pénale internationale.
Alors Paul, comment devient-on juge à la Cour pénale internationale?
Les candidatures sont déposées à l'Assemblée des États partis, donc chaque pays membre ou parti au statut de Rome propose la candidature de son citoyen, de son candidat. À l'Assemblée des États partis, on élit le juge sur un certain nombre de critères.
Quels sont ces critères?
Il faut être d'abord de moralité absolument irréprochable. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, jouir d'une haute considération morale. Il faut être connu pour l'impartialité, l'intégrité. Les juges, comme j'ai dit, sont élus par l'Assemblée des États partis sur la base de la compétence reconnue en droit pénal et en procédure pénale ou dans les domaines pertinents du droit international tels que le droit international humanitaire, les droits de l'homme. Ils doivent aussi avoir une connaissance approfondie de certaines questions spécifiques comme les violences sexuelles, les violences contre les femmes, contre les enfants. Il faut avoir été au moins juge dans son pays dans les matières pénales. Voilà.
Cela veut dire qu'un État non parti au statut de Rome ne peut pas faire nommer juge à la CPI?
Non, non. Un État non parti ne peut pas proposer une candidature de juge à la Cour pénale internationale. En tout cas, pour les fonctions aussi élevées comme celle-là, les juges, procureurs, greffes, présidents de la Cour, il faut appartenir à un État parti au statut de Rome.
Oui, Paul Madidi, la RDC vient d'avoir son premier juge à la CPI. En dehors du prestige que peut tirer un pays qui vient de faire nommer son ressortissant à la CPI?
Bon, je pense que ce n'est pas qu'un simple prestige. Quand on a des compétences dans le pays, pourquoi ne pas proposer des citoyens qui sont compétents dans des instances internationales? On est membre d'une institution internationale. Il faut avoir aussi des ambitions de diriger ces institutions-là, de figurer parmi les acteurs, les animateurs de ces institutions. Je crois que les autorités congolaises étaient mues, animées par cette ambition-là. Quand il y a un fils du pays qui remplit ces critères-là, pourquoi pas? Monsieur Mbé Mindoua, pour parler de lui, a été juge au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a été expert au tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est un chercheur, c'est un professeur d'université en droit international pénal. Il a exercé la magistrature dans les juridictions militaires. Il a été un des animateurs, en tout cas, dans la structure qui avait été mise en place pour la garde civile à l'époque. Donc, voilà quelqu'un qui a une longue expérience. Il répond absolument aux critères tels que fixés par l'Assemblée des États partis. Et pourquoi ne pas soutenir une candidature comme celle-là, surtout que c'est un citoyen, un fils du pays?
En dehors de la procureure, il y a maintenant un Congolais. Est-ce qu'il y a d'autres Africains dans cette cour actuellement?
Oui, bien sûr. Il y a par exemple une Botswanaise en la personne de la juge Sani Masenono Monageng. Il y a Madame Akua Kwenyeya du Ghana. Il y a Joyce Aluosh du Kenya, c'est une femme aussi. et il y a un Nigérian, la personne de Chile, Eboué Osuji. Monsieur Mindoua vient s'ajouter à cette liste déjà des Africains, des juges d'origine africaine à la Cour pénale internationale.
Alors, quelle est la durée du mandat d'un juge à la CPI?
C'est 9 ans, normalement. C'est un mandat de 9 ans.
Renouvelable?
Non, ce n'est pas renouvelable.
Alors, Paul m'a dit, est-ce qu'un juge de la CPI peut siéger dans un dossier concernant son compatriote?
Non, un juge ne peut pas siéger dans un dossier concernant un de ses compatriotes. Pour ne pas être, comme on dit, jugé parti, pas seulement ça, mais pour qu'il n'y ait pas comme un conflit d'intérêts. Mais ceci n'enlève en rien le fait que tous les juges de la CPI doivent garder leur intégrité. Ils restent avant tout juges. Ils sont tout d'abord juges, c'est-à-dire appelés à dire la loi, à dire le droit. Le reste vient après.
Est-ce que vous avez peut-être un message, un mot par rapport à l'élection d'un Congolais à la CPI ou à la présence des Africains au sein de la CPI?
Bah, on a là au moins 6 juges.
Sur 10?
Sur 18.
Sur 18?
Ouais, sur 18. Il y a 6 juges d'origine africaine. Sans fausse modestie, on ne peut qu'en être fier. C'est la preuve, encore une fois, contrairement à ce qui se dit, la Cour n'est pas une institution des Blancs contre les Africains. Les Africains sont bel et bien représentés au sein de la Cour. Mais, ceci dit, les juges restent avant tout des juges, c'est-à-dire appelés à dire le droit. Il ne faut pas espérer qu'ils ferment les yeux sur des crimes graves commis par des Africains. On n'est pas là pour faire comme une compétition qui gagne, non. On est là pour dire le droit, et rien que le droit, à ne dire la loi, rien que la loi.
Est-ce que le juge congolais peut déjà siéger sur un dossier?
Il reste maintenant que le président de la Cour pénale internationale le nomme dans une des chambres. Il peut être dans la chambre préliminaire ou encore dans une équipe de la chambre de première instance ou encore il peut se retrouver à la chambre d'appel. Ça dépendra du juge président de la Cour pénale internationale.
Paul Madidi, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ouvrons cette page par le projet de la réhabilitation du canal d'irrigation de Tengetenge à Lubérésie, au Sud Kivu. Un projet financé par la MONUSCO dans le cadre des projets Impact Rapide. La première tranche de ce financement a été officiellement remise le 5 mars dernier à Lubérésie. Objectif du projet, lutter contre la pauvreté et faciliter la pacification communautaire de la plaine de la Ruzizi. La journée de la femme 2015, c'était le 8 mars dernier, mais c'est le jeudi 12 mars que le bureau genre de la MONUSCO a célébré cette journée à Goma, au Nord Kivu. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a participé à cet événement à l'organisation de laquelle ont aussi participé la police UN et les agences des systèmes onusiens en partenariat avec la société civile de la ville de Goma. Enfin, restons toujours à la section genre de la MONUSCO, cette fois à Bounia en Ituri, où cette section a pris part à la réunion préparatoire des audiences foraines de la cour militaire à Kisangani, à Mambasa, avec la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, l'ONG Avocats sans frontières, le projet Wakisafi et le PNUD.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le programme de reconstruction et de stabilisation des zones sortant des conflits armés, STAREC et l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO ont co-organisé du 3 au 5 mars dernier un atelier à portée nationale. Cet atelier vient clôturer la série de 3 ateliers provinciaux qui ont enrichi les stratégies de stabilisation dans les deux Kivu et la province orientale en même temps. Il a accouché d'une nouvelle stratégie visant à renforcer de nouveaux projets qui tiennent compte des intérêts réels de la population dans ces 3 provinces. C'est autour des conclusions de cet échange national et des stratégies antérieures que tourne l'interview que Richard Lebailly de La Falaise a accordé à Jean-Pierre Elali Ikoko. Suivez.
Richard de La Falaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO. Votre unité vient de co-organiser du 3 au 5 mars dernier à Kinshasa un atelier avec les Starek, le programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés. Mais avant, en quelques mots, pouvez-nous parler brièvement de votre unité?
Enfin, l'unité d'appui à la stabilisation, qui est au sein de la MONUSCO, basée à Goma, est une unité qui a donc été montée en 2008 afin de coordonner la mise en œuvre d'une stratégie internationale de stabilisation dans l'est du Congo, que nous résumons comme étant l'I4S. Et cette unité travaille en proche collaboration avec le Starek, qui est en fait le soutien, est en soutien au Starek, qui est l'agence gouvernementale sous le ministère du Plan, qui est chargée de la stabilisation et de la reconstruction des zones sortant des conflits armés.
Comment donc fonctionne concrètement la collaboration entre votre unité, qui est au sein de la MONUSCO, et le Starek, qui est un programme du gouvernement de la RDC, comme vous l'avez dit?
Eh bien, d'abord, nous étant basés à Goma, couvrant tout l'est du Congo, nous travaillons d'abord avec les Starek provinciaux, parce que le Starek est en fait un centre national, si vous voulez, un coordonnateur national basé à Kinshasa, avec une équipe d'experts, et ensuite vous avez des bureaux Starek au sein des gouvernorats des trois provinces, pour ce qui est de l'est du Congo, et surtout le pays.
Les trois provinces, lesquelles?
Province orientale, Nord Kivu et Sud Kivu. Et donc, cela veut dire que nous développons tout ce qui est politique, dans le sens développement de politique de stabilisation, de stratégie, de programme, de développement de programme, de mise en place de programme, de validation de programme de stabilisation. Tout ceci se fait au sein des Starek provinciaux avec le Starek national. Et qui est ensuite, c'est validé au niveau des gouverneurs, à travers les comités techniques conjoints. Donc, nous sommes totalement en appui, technique et des partenaires, car nous nous voyons tous les jours, voire même peut-être à l'avenir être dans les mêmes bureaux à Goma.
Alors, je comprends que la stratégie des stabilisations existe depuis plusieurs années déjà. Quel est son impact jusqu'ici au niveau de la population?
Eh bien, pour commencer, il faut un peu revenir un tout petit peu en arrière. La stratégie avait été lancée en 2008. Jusqu'à 2012, elle a été très portée sur la restauration de l'État, principalement des infrastructures et des routes. Mais malheureusement, étant donné que c'était quelque chose de nouveau, c'est un peu pionnier comme programme, c'est quelque part entre l'humanitaire et le développement, ça ne prenait pas en compte certains critères, certains besoins comme les communautés, l'importance d'une meilleure appropriation gouvernementale au niveau national. Et donc, la résolution du Conseil de sécurité 2053 nous a demandé, en 2012, de réviser cette stratégie, qui a été révisée en fin 2013, ça a terminé, c'est un travail qui a duré un an, c'est vrai, c'était un travail très poussé, qui a été pris en main par les autorités provinciales et nationales, avec tous les partenaires, et une nouvelle stratégie est sortie, qui reprend toutes les leçons de la première, et qui est maintenant mise en œuvre sur le terrain.
Oui, la stratégie existait depuis 2008 jusqu'en 2012. Prenons cette étape-là, quelles ont été les réalisations sur le terrain? Quel impact cela a eu sur la population?
C'est deux questions-là. Les réalisations, ça c'est très clair, les réalisations, c'est-à-dire que vous avez eu 500 km de route.
C'est où c'est précisément?
J'ai pas la carte devant moi malheureusement, mais disons qu'on va dire la route de Sake, Bunyakiri au sud Kivu, dans la région de Beni, province orientale. Ce sont des routes qui permettaient de désenclaver des communautés, de relier des points de commerce comme Goma, comme Bukavu, comme Bunia. C'était un peu sur ces axes-là. L'axe de route Chouro aussi était très important. Et les bâtiments, tout ce qui était bâtiments, police, administration civile, caserne pour l'armée, les FARDC, donc c'était des projets de restauration de l'État. Et justement, au bout de 4 ans, on se rend compte qu'il manque encore de la stabilisation, que les communautés n'en bénéficiaient pas directement dans le sens que c'était surtout de la restauration de l'État et qu'on n'avait pas assez pris en compte les besoins des communautés.
Nous parlions tout à l'heure de l'atelier qui a été organisé récemment ici à Kinshasa. À quoi consistait cette rencontre, Richard?
La nouvelle stratégie qui a déjà commencé, mais qui pour l'instant est une échelle assez petite, a commencé à partir des communautés. C'est-à-dire que des partenaires, suivant une certaine méthodologie avec le Starek, ont développé des analyses de conflits et des besoins sur le terrain. Ces analyses ensuite remontent au niveau des provinces avec des séminaires, un atelier par province, où on a ensuite une stratégie provinciale de stabilisation et un plan d'action prioritaire. Et donc le but de Kinshasa, la semaine dernière, l'atelier national, c'était pour que chaque province, les trois provinces concernées, puissent présenter au niveau national leurs conclusions sur comment stabiliser l'Est du Congo, quelles sont leurs priorités, quels sont leurs besoins et quelle est la priorisation des zones de conflit qui ont été identifiées, par où allons-nous commencer. Donc voilà quelles étaient les grandes lignes de cet atelier qui a également défini une définition commune de ce que la stabilisation.
Donc c'est encore une nouvelle stratégie?
C'est une nouvelle stratégie mais qui est déjà en cours. court, hein, parce qu'on a déjà lancé deux grands programmes, quand même à Mambassin et Calais, où là, on a vraiment fait quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire qu'on a commencé par la base, on a étudié les besoins, les moteurs de conflit, la réponse que l'ICATRES avait par rapport à ces moteurs de conflit, présenté les projets développés en commun au sein du STAREC et des agences de l'ONU et de la MONUSCO, validés au niveau provincial et national, et maintenant en train d'être mis en œuvre. Premier lancement a eu lieu en décembre et le deuxième pour Mambassin en janvier.
Et les conséquences sur le terrain ?
Les conséquences, nous les verrons dans 18 mois, parce que ce sont des projets qui sont sur une durée de 18 mois. Et donc, donnons-nous rendez-vous dans 18 mois et nous verrons les conséquences de ces projets.
Pour terminer, les partenaires financiers soutiennent depuis quelques années maintenant les activités de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous pensez qu'ils continueront à le faire et pourquoi ?
Mais écoutez, pour l'instant, les signes sont positifs. Nous avons développé, ce n'est pas qu'un travail entre l'unité d'appui à la stabilisation et le STAREC, c'est un travail en fait avec les agences de l'ONU, mais avec nos partenaires, les États membres, qui sont intéressés par la stabilisation dans l'Est. Notre unité est composée d'un nombre important de personnels en provenance de ces États membres, qui ont été détachés directement. Nous avons également des budgets de fonctionnement grâce aux États membres, et grâce surtout au Fonds de consolidation pour la paix, qu'on appelle en anglais le Peace Building Fund, qui a déjà annoncé de continuer son soutien, et nous espérons donc que pour la deuxième phase, qui est maintenant opérationnelle, plus de bailleurs de fonds se joindront également au sein d'un fonds fiduciaire qui permettra de coordonner les activités sur le terrain pour cibler le mieux possible les moteurs de conflit.
Donc ils vont bien sûr continuer à vous soutenir.
A priori, je pense que c'est bien parti. Nous continuons notre travail tous ensemble pour y arriver.
Une toute dernière question personnelle. Est-ce que Richard, vous êtes satisfait de la collaboration avec STAREC ?
Moi, à titre personnel, je sors justement d'une réunion avec le STAREC. Ce sont des partenaires que je vois pratiquement tous les jours ou toutes les semaines. Le coordonnateur national est pour moi mon premier partenaire. Nous sommes sur une base de tutoiement. Nous avons une très très bonne relation. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il peut toujours faire mieux. Je pense qu'il est important de soutenir le STAREC, de toujours être là en appui technique lorsque c'est nécessaire. Mais nous voyons une vraie évolution depuis juin 2014 avec la nouvelle ordonnance de mai 2014. Signé par le président, nous voyons des vrais changements et nous sommes très contents. C'est un début, c'est un chemin qui est long, qui ne va pas être facile, mais voilà, il faut le faire ensemble.
Richard de la Falaise, je vous remercie.
Un grand merci à vous.
Ouverture mercredi dernier d'une foire au non-vivre dans le village de Luntukulu, territoire de Walungu. Selon le bureau de coordination humanitaire OCHA, ce sont deux organisations internationales qui organisent cette foire comme réponse rapide au mouvement des populations jugées vulnérables. Des détails avec Astrid Mujinga.
En effet, IRC et AVSI sont des ONG de mise en œuvre des mécanismes réponse rapide au mouvement des populations. Cette foire est organisée à l'intention des familles déplacées, retournées ainsi que des familles d'accueil considérées comme vulnérables de plusieurs villages de la région qui connaissent des turbulences des différents affrontements entre milices armées et les FARDC. Dans cette foire sont exposés divers articles ménagers, par exemple des casseroles, des assiettes, des nattes, des bidons, etc. Selon OCHA, ce sont au total 2536 familles qui sont concernées. Elles s'étaient déplacées au mois de novembre et de décembre 2014, mais aussi en janvier 2015, suite aux affrontements entre les miliciens Raia Mutomboki et les FARDC, dans les localités de Lubila et Lukigi, à la limite entre le territoire de Shabunda et celui de Walungu. En ce qui concerne le déroulement de la dite foire, chaque bénéficiaire se présente au site avec sa carte d'électeur et reçoit un coupon d'une valeur de $75. Et c'est avec ce coupon qu'il va se procurer les articles de son choix en rapport avec cette valeur, c'est-à-dire en rapport avec $75 sur le marché. À la fin de la journée, chaque vendeur se présente à la comptabilité de la foire avec le coupon reçu. Il recevra ainsi l'autorisation des paiements qui sera présentée au bureau conjoint IRC-AVSI de Bukavu pour retrait d'un chèque équivalent au montant des coupons reçus. Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Monsieur Alain, pour la télévision centrale de Chine, monsieur le représentant, l'ONU maintenant se base plus sur les troupes africaines pour prendre en charge la situation qui se passe en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la MONUSCO, vous parlez ici de réduction des troupes, vous, en tant que représentant avec l'expérience sur le terrain, vous pouvez aussi arriver à proposer des aspects comme ça, que s'il y a réduction, que la MONUSCO se base plus maintenant sur des troupes africaines qui se trouvent au sein de la mission, qui ont prouvé également de quoi ils étaient capables. Est-ce que des perspectives comme ça vous arrivent déjà dans la tête pour la nouvelle reconfiguration de la mission? Merci.
Cette question était posée à Kinshasa au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies au quartier général de la MONUSCO. Suivez la réponse de Martin Kobler.
Je connais la discussion sur les troupes africaines après la MONUSCO. Ce n'est pas mon sujet. La perspective, c'est d'établir la paix, la prospérité et la stabilité, en particulier à l'Est du Congo, d'assister le gouvernement de la RDC, de créer une situation qui est assez stable, une irréversibilité de la situation politique, que les cycles de violence ne reviennent pas, et puis toutes les groupes étrangères doivent quitter le pays sans être remplacées par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'insiste sur la valeur et l'importance de la réforme du secteur de sécurité. C'est les FRDC qui doivent régler les problèmes. Et de plus en plus aussi la PNC. Beaucoup de problèmes à l'Est maintenant, ce ne sont pas des problèmes des groupes armés, mais c'est aussi des problèmes de contrebande. Un groupe de travail ici qui m'a dit sur les crimes d'environnement, qui m'ont dit on a 1,2 milliard de dollars de contrebande au dehors de l'Est. Et ce n'est pas un problème des troupes. Hein, ce n'est pas un problème des Africains ou occidentaux, des troupes, c'est un problème policier. Les problèmes policiers sont aussi très très importants d'adresser. Et peut-être le futur, parce que vous avez demandé aux perspectives, peut-être le futur est d'avoir plus de policiers ici. Des policiers francophones du Sénégal comme maintenant ou de l'Afrique de l'Ouest. Ici de remplacer les troupes, de réduire les troupes et même de les remplacer par des policiers qui peuvent adresser les causes racines.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Mon nom c'est Zomaï Tokoué Françoise. Je suis de la police des Nations Unies. On nous appelle UNPOL. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Mon père étant un instituteur, cela m'a permis d'avoir une bonne formation. Je lui rends hommage. Mon parcours professionnel avant l'agence. Je suis entrée à la fonction publique très jeune comme institutrice de mon état, après avoir tenté en vain d'entrer à la gendarmerie nationale. Dans cette corporation d'enseignants, j'ai eu le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique en 1987 et le certificat d'aptitude pédagogique en 1992 avant d'entrer à la police nationale en 1993. Dans ce corps, je suis un officier ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité. J'ai contribué au maintien de la paix en Côte d'Ivoire avant d'être en RDC où je suis en train de faire presque 2 ans. À la MONUSCO, je travaille à la cellule de la réforme de la police nationale congolaise, conseillère en lutte contre les violences sexuelles, genre, droits humains et protection de l'enfant. Dans un groupe qu'on appelle GTVSPDH, au sein du secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme où je mène quotidiennement mes activités. Ce groupe a pour mission de s'assurer que les questions liées à la protection de l'enfant, aux gens et aux droits humains, y compris la lutte contre les violences sexuelles, soient systématiquement intégrées dans le planning de la réforme de la police nationale congolaise. Pour ce faire, le groupe est donc chargé de la conceptualisation de la stratégie visant à améliorer les différentes prestations de la police dans ces domaines-là. Donc, quotidiennement, mes activités se déroulent suivant une planification hebdomadaire préétablie et soumise à la hiérarchie, selon un plan de travail établi sur 6 mois et visant les objectifs du plan d'action quinquennal. Durant les 2 ans, parmi tant de projets que j'ai contribué à initier, il y a celui concernant l'intégration du genre au sein de la police nationale congolaise qui est déjà amorcé en partenariat avec l'ONU Femmes pour son appui financier, la MONUSCO pour son appui logistique, la police MONUSCO pour son appui technique. Notre vision en ce qui concerne ce projet est l'élaboration d'un plan d'action intégré dont la mise en œuvre favoriserait des résultats palpables en ce qui concerne l'intégration du genre au sein de la police nationale congolaise. La question de protection de l'enfant a beaucoup préoccupé mon groupe de travail, qui y travaille avec différents partenaires comme la RSS MONUSCO, l'UNICEF, Child Protection, qui nous accompagne dans l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques pour la protection de l'enfant, à l'intention du policier et toute personne que le domaine intéresse. Au nom des tâches que j'ai abattues dans la mission, je dirais que j'ai contribué à faire asseoir le réseau des femmes UNPOL-FPU, que nous appelons le comité des femmes UNPOL-FPU au sein de la MONUSCO, dont je suis la vice-présidente et qui fait ses preuves sur le terrain. Beaucoup de femmes ont été encouragées, plusieurs d'entre elles ont postulé et ont eu des postes de responsabilité. Je suis aussi membre de la chorale Peace and Love de la MONUSCO et à travers elle, je communique la paix et l'amour. As-tu vu ce que Dieu a fait? Il a vaincu les œuvres de Satan et il m'a donné la victoire. C'est pourquoi je chante au Seigneur. Merci. Je nourris aussi bien d'autres rêves car j'ai écrit beaucoup de scénarios concernant mon vécu quotidien sur le terrain de mission qui pourraient servir par le moyen de la communication à amener les populations à observer des comportements de paix pour le développement de la société congolaise. Mes temps libres sont mes jours de congé et les nuits que je mets à profit pour m'équiper en vue de donner le meilleur de moi pour la réforme de la police nationale congolaise. Mes préférences, il y a le sport, la musique, la lecture et les voyages. En ce qui concerne les mets, je ne suis pas trop formelle. Je dois signaler au passage que j'ai beaucoup aimé le chikwang, que j'ai découvert pour la première fois en RDC. Mes perspectives, mon souhait est de continuer à exercer dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies pour être la force du faible, l'œil de l'aveugle, le soutien de celui qui tombe. En bref, je veux être une porteuse de solutions pour tout résumer. Je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Le magazine des Nations Unies va continuer à relayer toutes les activités liées à cet événement au sein du système des Nations Unies en RDC. Le 21 mars, c'est la journée internationale des forêts et le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission supervisée par Ben Kabamba, Jean-Pierre Elali, Ikoko, la coordonnée et Honoré Misenga était en reportage et moi, Thérèse Bassoubi, à la présentation. La mise en onde a été assurée par Guy Manzangou. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radiocapi.net. Merci et bonne journée dominicale à tous. Au revoir.